soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos lectures, de nos influences politiques, de nos choix de séries télé et de notre réputation personnelle. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 91 pages de conditions générales d'utilisation. Cette semaine, nous allons parler nourriture. Alors, dans le monde numérique d'aujourd'hui, ça ne rime pas avec casserole, mais plutôt avec pédale. En effet, quand on est smart et connecté, on est un peu feignant et on se fait livrer son dîner à la maison. Vous avez compris, nous allons parler des livreurs de repas et des plateformes de commande de nourriture en ligne. Uber Eats, Deliveroo, Foodora pour les plus connus en France. Ce sont des entreprises initialement créées aux États-Unis qui ont lancé le concept de plateforme de commande en ligne de repas. Nous avons évoqué dans les précédentes chroniques la magie de la livraison rapide que promet le numérique. Avec les livraisons de repas, ces plateformes se rapprochent encore plus de l'instantanéité, avec un temps très court entre le clic et la satisfaction du consommateur. Mais quand on y regarde de plus près, les plats à domicile ont un goût amer. Alors, de quoi parle-t-on ? Traditionnellement, lorsque l'on commande de la nourriture à domicile, on contacte le producteur de cette nourriture, un restaurant, et on lui commande le produit dont il assure la livraison. Ce contact se fait beaucoup par téléphone, mais Internet a offert de nouveaux canaux de commande. D'ailleurs, la première commande de nourriture en ligne aurait été faite chez Pizza Hut, en 1994. C'est aussi une confirmation du fait que les premiers connectés n'étaient pas vraiment des gourmets. Mais la promesse d'un monde qui rapproche les gens grâce à Internet a vécu, puisqu'il y a désormais une barrière entre vous et votre restaurant, si vous me permettez de parler de restaurant. Une plateforme numérique vient jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux acteurs traditionnels, supprimant la relation entre le client et le restaurant. Ce dernier s'inscrit sur la plateforme en ligne pour proposer ses produits. Le client s'inscrit aussi pour acheter des produits et la plateforme gère la livraison. Ces entreprises sont une des déclinaisons d'un concept plus large, celui des plateformes numériques de mise en relation entre consommateurs et travailleurs indépendants. Il faut bien mettre des guillemets à « mise en relation » car en pratique, elles font bien plus que cela. Mais justement, que font ces plateformes ? Tout d'abord, prenons l'explication des entreprises elles-mêmes. Elles considèrent qu'elles se contentent de mettre en relation restaurateurs et particuliers. Elles affirment qu'elles ne font pas de livraison. Elles ont recours à des prestataires indépendants pour la livraison. A priori, c'est à peu près cela, puisque ces plateformes font appel à des entreprises de livraison pour récupérer les commandes dans les restaurants et les apporter aux clients. En pratique, ce n'est pas aussi clair. En effet, les livreurs sont des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des individus ayant le statut d'entreprise. De plus, ces individus travaillent dans un contexte de subordination par rapport à ces plateformes qui affirment ne pas être leurs employeurs. En effet, les plateformes fixent les tarifs des courses, modifient ou suppriment les courses à l'agenda des livreurs, qui sont exclus de la plateforme s'ils sont absents trop longtemps, qui doivent porter les tenues et accessoires de la marque et qui peuvent recevoir des sanctions de la plateforme. Bref, la relation avec ces entreprises sous-traitantes n'est pas celle de travailleurs indépendants. C'est du salariat déguisé. D'ailleurs, en France, la justice commence à s'intéresser à ces abus. C'est le sujet d'un article de Mediapart paru en mars 2018 intitulé « Avec Deliveroo, l'inspection du travail s'attaque à l'ubérisation ». Je cite « L'inspection du travail estime que les coursiers à vélo passant par l'application ne sont pas des « partenaires », mais de classiques salariés, et qu'ils ne devraient pas se déclarer en tant que micro-entrepreneurs. L'URSSAF estime que le montant des cotisations non versées en 2015 et 2016 dépasse 6,4 millions d'euros. Les journalistes de Mediapart décortiquent ensuite les conclusions des inspecteurs. On y apprend que les livreurs ont également des obligations en termes d'usage de smartphones et de véhicules, alors même que ces derniers sont à leurs frais. Ils sont également traqués en temps réel par GPS, localisation qui permet de les contrôler, les noter et ordonner leurs déplacements sans qu'ils ne soient informés à l'avance du lieu ou de la nature de leurs commandes. Mais Deliveroo est conscient de jouer avec les limites du droit et l'article souligne l'effort pour choisir les mots qui masquent les réelles relations de travail. Cette pratique frise le ridicule dans le cas de Uber Eats. Dans un article de 2017 paru sur le site de France Info, on peut y lire un extrait des clauses que doivent signer les livreurs. Écoutez plutôt. Vous attestez et convenez par les présentes que l'utilisation des outils n'est pas destinée à créer une relation employeur-employé avec Uber. C'est pas beau ça? Je t'oblige à signer un contrat où tu déclares que je ne t'y ai pas obligé. L'article en question, intitulé « Deliveroo, Foodora, Uber Eats, quand la livraison des petits plats met le salariat sur le grill », présente de nombreux autres exemples de la manière dont les plateformes se jouent du droit du travail. Un autre article paru dans Libération le 3 juin 2019 charge encore la barque. En effet, les livreurs pas ou peu assurés sont victimes d'accidents, parfois mortels. Et les comptes de livreurs sont parfois utilisés par des migrants sans papier. C'est ainsi qu'un Népalais de 23 ans est décédé à Barcelone après avoir été percuté par un camion début 2019. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi ces entreprises persistent à vouloir faire du salariat déguisé? Il y a évidemment une logique économique. L'entreprise décide de la rémunération, mais comme il n'y a pas de salaire, elle ne paye pas de charges sociales et la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Mais aussi, moins de complications en termes de responsabilité logistique. Si un livreur est percuté par une voiture, il n'y a pas d'arrêt maladie, pas de frais de réparation du vélo, pas de frais de justice, et il y a tout de suite un autre travailleur disponible pour le remplacer. Mais pour comprendre la situation actuelle, il est indispensable de s'intéresser au modèle économique. Dans un article paru en 2018, Anna Guilera, Laetitia Dablan et Alain Rallet se sont penchés sur la stratégie de long terme de ces plateformes. Ces chercheurs expliquent que leur modèle économique n'est pas du tout consolidé. Ainsi, en 2016, Deliveroo a subi des pertes de 147 millions d'euros et Take It Easy a fait faillite. Foodora et Allo Resto se sont fait racheter et Foodora a même quitté le marché français en 2018. Mais pour les chercheurs, c'est une question systémique. Je les cite. Les pertes sont inhérentes au type de concurrence qui n'est pas seulement une concurrence dans le marché, mais aussi une concurrence pour le marché dans une stratégie de « winner takes all ». En bref, cette stratégie du gagnant qui rafle la mise consiste donc à se livrer une concurrence effrénée en espérant que vos concurrents jettent l'éponge avant vous. Dans leur article intitulé « L'envers et l'endroit des plateformes de livraison instantanée, enquête sur les livreurs micro-entrepreneurs à Paris », les trois chercheurs expliquent que cette activité n'est pas rentable à l'heure actuelle, pour les plateformes, mais aussi pour les livreurs. Pour eux, je cite, « L'enjeu est énorme car une requalification du contrat en contrat salarial rendrait les plateformes non viables dans le contexte de marché actuel. » En résumé, la reconnaissance du salariat mettrait fin à cet équilibre économique absurde dont les livreurs font les frais. Mais alors, et nous dans tout ça? Encore une fois, au-delà de la précarisation des livreurs, nous sommes également victimes en tant que contribuables. Quand on parle de trous de la sécu, on peut déjà se dire que ces plateformes manient plutôt la pelleteuse que la petite cuillère. Mais il existe des alternatives à ces plateformes dans de nombreuses villes de France. Des coopératives de coursiers se sont créées dans beaucoup de grandes villes et nous recevrons à ce titre les coursiers montpelliérains dans notre prochaine émission. En attendant, il y a une cuillère qui ne creuse pas le trou de la sécu. C'est celle qui sert à cuisiner vos repas dans votre casserole.